Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
On est dans la quatrième vague. La clé, on la connaît, il faut vacciner. Donc, je vous dis, d'ici, dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir 5 millions de rendez-vous.
5 millions de rendez-vous supplémentaires pour permettre aux Français de se vacciner, de freiner la progression de l'épidémie. Avec le variant Delta, le nombre de cas de contamination explose et les services hospitaliers pourraient se retrouver saturés dès la fin de l'été.
Le village de Plan-de-la-Tour rassemblé en ce moment même pour rendre hommage à Doriane, la jeune femme tuée dimanche d'une balle dans la tête par l'homme avec qui elle avait eu une brève relation. Les habitants ont voulu témoigner leur soutien à la famille.
À le centre de la Chine en alerte rouge, un an de pluie s'est abattu en 3 jours. Des torrents de boue s'abattent sur une métropole de 10 millions d'habitants et un barrage menace de s'effondrer. Correspondance à suivre dans ce journal.
La cérémonie d'ouverture aura lieu dans moins de 2 jours, mais les épreuves, elles, ont déjà commencé. Tokyo se part doucement de ses couleurs olympiques.
La bourse, le CAC 40 termine ce soir en forte hausse de 1,85% à 6 464 points.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Thierry, c'est la dernière belle journée pour demain. Comme ces derniers jours, il faudra attendre que la grisaille matinale se dissipe au sud de la Garonne. On aura aussi quelques nuages bas qui gagneront les côtes méditerranéennes.
Le point complet à la fin de cette édition.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le pic épidémique de la quatrième vague qui traverse actuellement la France est attendu pour la fin de l'été. C'est ce qu'a annoncé Olivier Véran à l'Assemblée nationale lors des débats sur le projet de loi sur le pass sanitaire.
Le ministre de la Santé qui précise que 21 000 nouveaux cas de contamination ont été détectés ces dernières 24 heures. Une situation qui inquiète le gouvernement. Jean Castex l'a d'ailleurs clairement exprimé à la mi-journée lors du journal de 13h sur TF1. Premier ministre qui l'a redit, l'objectif est encore d'accélérer sur la vaccination.
96% de tous ces cas qu'on constate de plus en plus nombreux
n'étaient pas vaccinés.
La clé, on la connaît, c'est pas tout à fait nouveau, mais la contagiosité de ce variant Delta nous oblige encore plus, il faut vacciner. Donc, je vous dis, d'ici, dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir 5 millions de rendez-vous. Dans cette période, c'est pas seulement ouvrir pour vous dire vous aurez un rendez-vous le 20 août.
Mais avec quel objectif? On a bien compris, vous mettez l'accent sur la vaccination, mais l'objectif chiffré, c'est combien?
J'ai dit 40 millions de primo-vaccinés à la fin de ce mois, on est bientôt.
On y est.
Oui, sauf que c'était 40 millions fin août. Oui. Donc on a vraiment, et 50 millions fin août.
Jean Castex au journal de 13h sur TF1.
Et cette intervention a également été l'occasion pour le Premier ministre de détailler les mesures du pass sanitaire qui sont entrées en vigueur aujourd'hui, Hélène Terzian.
Oui, d'abord, il y avait une interrogation quant à l'usage de ce pass dans les écoles. Là-dessus, Jean Castex a été très clair. Le pass sanitaire ne sera pas exigé dans les établissements scolaires. Le gouvernement préfère accélérer la campagne vaccinale pour les 12-17 ans. En revanche, le pass est donc bien exigé depuis ce matin pour accéder aux lieux de loisirs, de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. Ce sera le cas aussi à partir du 1er août pour accéder aux restaurants et au café. Charge donc aux responsables de ces établissements de contrôler ce pass à l'entrée. Le Premier ministre a en revanche précisé que les gérants de ces établissements ne seraient pas chargés de la vérification de l'identité des personnes qui les présentent. Ce sera du ressort des forces de l'ordre. Des nouvelles mesures qui nécessitent une période de rodage, une tolérance d'une semaine sera accordée pour faire de la pédagogie, a rassuré le Premier ministre. Viendra ensuite le temps des sanctions. Pour rappel, les restaurateurs et patrons d'établissements concernés risquent 1 500 euros d'amende s'ils ne contrôlent pas le pass sanitaire de leurs clients à l'entrée. Au bout de 3 violations, elle passera à 9 000 euros.
Hélène Terzan, dès le début du mois d'août, le pass sanitaire sera donc également obligatoire dans les bars et les restaurants. Hélène Terzan vient de nous le dire, les restaurateurs devront s'assurer que leurs clients possèdent bien le leur. En revanche, ils n'effectueront pas de contrôle d'identité.
Un assouplissement salué par Didier Chenet, le président du Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie-Restauration.
Nous sommes soulagés, bien évidemment. Bien entendu, nous ferons les contrôles du pass sanitaire. Mais pour autant, nous ne serons pas tenus d'assumer un rôle de police comme le voulait au départ le projet de loi. Nous ne sommes pas en mesure, encore une fois, d'exiger et que faire devant un client récalcitrant qui ne veut pas vous présenter sa carte d'identité. Donc c'est très important. Et alors maintenant, il nous reste à discuter la situation des terrasses. Nous demandons à ce qu'il n'y ait pas de contrôle du pass sanitaire sur les terrasses, dans la mesure où d'abord, un, c'est en extérieur, et deux, c'est totalement irréaliste de penser qu'on va pouvoir, au fur et à mesure, assurer ces contrôles, alors même que les clients arrivent en terrasse, s'installent sur les terrasses. C'est extrêmement difficile de contrôler tout ça.
Et Didier Chenet, président du GNI, avec Clément Le Saffre pour Europe 1. Concernant les vaccins contre le Covid-19, cette avancée en Afrique, celui conçu par Pfizer-BioNTech sera produit directement au Cap en Afrique du Sud dès l'année prochaine, ce qui permettra de fournir au continent 100 millions de doses par an.
18h06 également dans l'actualité ce soir, ce rassemblement qui a lieu en ce moment même à Plan de la Tour dans le Var, en hommage à Doriane, retrouvée morte dimanche.
La jeune femme de 32 ans a été tuée d'une balle dans la tête. Le principal suspect est l'homme avec qui elle avait entretenu une brève relation et qui a effectué 2 jours de cavale dans les Alpes-Maritimes avant d'être retrouvé mort hier à Gréolières. Les habitants de Plan de la Tour sont donc rassemblés devant la mairie du village pour saluer la mémoire de Doriane et s'associer à la douleur de la famille. Frédéric Michel.
Oui, de nombreux bouquets de fleurs et 2 grandes photos de Doriane posées sur les marches de la mairie du Plan de la Tour. Depuis quelques minutes, l'hommage à cette jeune mère de famille a débuté sur la place ombragée de la mairie où se sont réunies plusieurs centaines de personnes dans le silence et le recueillement. Les yeux sont rougis, l'émotion très forte. Ces 2 habitantes tenaient à être présentes.
On a déposé des fleurs, bien sûr. Elle travaille un peu partout, donc voilà, elle aidait beaucoup les personnes âgées. Je pense qu'elle a été très 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 appréciée. Hein. C'est bouleversant, et puis c'est tragique quoi, ce qui est arrivé. Surtout qu'elle laisse une fille de 11 ans en plus, c'est horrible.
Je suis venue pour elle, sa petite fille, sa famille et ses amis. Et même sans la connaître, voilà, ça touche quoi, énormément.
À l'instant, 1 minute de silence vient d'être observée. Des prises de parole sont en cours. L'homme du village a pris la parole. Âgée de 32 ans, Doriane était très appréciée dans cette commune du golfe de Saint-Tropez. Elle était inséparable d'un groupe d'amis aujourd'hui très affectés et que l'on voit en pleurs tenter de se soutenir avec des membres de la famille. Tous entourent sa fille, à peine âgée de 11 ans, et qui ne reverra plus sa maman.
Frédéric Michel à Plan de la Tour dans le Var pour Europe 1. Ce drame dans le Finistère, 2 fillettes de 4 et 6 ans ont été retrouvées mortes à leur domicile de Relecq-Kerhuon. Leur mère a été hospitalisée. Les circonstances des décès ne sont pour le moment pas connues.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris s'ouvriront le 8 septembre prochain. Un procès gigantesque, 1800 victimes, 20 accusés. 14 assisteront à l'audience, parmi lesquels Salah Abdeslam, l'unique survivant des commandos.
Un procès gigantesque également par sa durée et qui a encore été allongé. Il s'étalera sur 9 mois au lieu de 8. L'audience se tiendra donc en pleine campagne présidentielle et des élections législatives. Une inquiétude pour les victimes qui craignent une récupération politique. Écoutez, Arthur Desnouveaux, survivant du Bataclan et président de l'association Life for Paris.
On va avoir le procès pendant toute la campagne présidentielle et après, c'est-à-dire pendant la campagne des législatives. Ça va donc faire un calendrier très chargé en actualité qui peut venir parasiter le procès. En 6 ans, on a vu tout un tas de récupérations politiques, tout un tas de justifications de lois sécuritaires par les attentats du 13 novembre et la nécessité que ça ne se reproduise plus. On a vu des débats sur les routes des migrants à travers l'Europe, qui était aussi ramené aux attentats. Et donc on sait bien que tous ces thèmes-là vont être abordés pendant le procès, qui vont donc être probablement repris sur les réseaux sociaux par les candidats politiques ou leurs proches, et que donc ça va venir compliquer la sérénité du procès.
Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris, avec Gladys Laffitte pour Europe 1. Un Britannique arrêté en Espagne aujourd'hui à la demande des États-Unis, il est soupçonné d'avoir participé au piratage de 130 comptes Twitter de personnalités en juillet dernier, parmi lesquels ceux de Barack Obama, de l'actuel président américain Joe Biden ou encore ceux d'Elon Musk et de Bill Gates.
Gros plan à présent, Sophie, sur cette situation catastrophique en Chine. Il est tombé dans le centre du pays l'équivalent d'un an de pluie en seulement 3 jours.
Ce qui a provoqué de violentes inondations sur la ville de Zhengzhou, qui compte 10 millions d'habitants. Au moins 25 personnes sont mortes. La plupart ont été noyées par des torrents de boue qui ont englouti le métro de la ville. Un barrage menace également de céder. Les autorités ont ordonné l'évacuation de 200 000 personnes en Chine. Le correspondant d'Europe 1, Sébastien Lebelzik.
Toute la journée, des centaines de camions militaires ont fait la navette pour évacuer plus de 200 000 personnes. 3 000 soldats ont été déployés sur zone et d'autres sont en train d'arriver. Une véritable course contre la montre alors que les eaux ne cessent de monter, comme l'explique ce militaire.
Avec mon détachement, nous avons évacué plus de 500 personnes déjà. On a commencé à réparer les digues et les réservoirs qui étaient détruits, mais d'après la météo, il va continuer de pleuvoir comme ça pendant au moins 2 jours.
Des torrents d'eau et de boue se sont abattus sur la ville de Zhangzhou, 12 millions d'habitants, l'équivalent de 6 mois de précipitations en à peine une heure. C'est du jamais vu en Chine. Tous les regards se tournent maintenant vers le barrage de Yiretan, sur le fleuve jaune. Une brèche de 20 mètres a été détectée et le barrage peut céder à tout instant. Dans le métro hier, des scènes de panique. Des milliers de voyageurs ont été pris au piège dans des rames inondées en quelques minutes. Ils se sont retrouvés bloqués avec de l'eau jusqu'aux épaules. Ils ont pu être évacués au bout de 4 longues heures d'attente. Mais le cauchemar continue alors que la pluie continue de tomber cette nuit sur la province du Renan. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
L'Allemagne également a connu des inondations meurtrières la semaine dernière avec près de 170 victimes. Des inondations qui coûteront jusqu'à 5 milliards d'euros aux assureurs, selon la Fédération allemande du secteur.
Dans deux jours, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo avec 33 disciplines cette année, dont 6 nouvelles comme le karaté, le surf ou encore l'escalade.
Et avant d'allumer la flamme olympique, les épreuves, elles, ont déjà commencé. Les premiers matchs de football féminin ont eu lieu tout à l'heure et c'est le softball, une version féminine du baseball, qui a ouvert le balle ce matin, Simon Rubin.
Ouais, c'est le début, avant le début, effectivement, avec le softball, sport très pratiqué au Japon. Un début de compétition symbolique dans la ville de Fukushima, dévastée par un accident nucléaire il y a 10 ans. Premier match remporté par les Japonaises dans un stade vide. Stade avec un peu de public pour le foot. Et une première surprise, les Américaines, championnes du monde, balayées par la Suède. Et puis le Brésil, qui a gagné son match également, avec dans son équipe l'une des doyennes de la compétition, la joueuse Formiga, qui dispute ses 7e Jeux Olympiques. Et puis, en ce moment même, ça y est, les athlètes français notamment convergent tous vers Tokyo. Les équipes françaises de handball viennent d'arriver et la délégation du judo a quitté son camp de base. Et vous l'entendez, elle a quitté son camp de base donc à l'extérieur de Tokyo. Il y avait quelques supporters japonais. Le personnel de l'hôtel qui était là pour accueillir et dire au revoir à cette équipe de France de judo. Les gymnastes, les représentants aussi de la voile ont déjà commencé à s'entraîner sur les sites des épreuves. Et puis, il y a le Covid qui continue d'être découvert parmi les délégations. Un pongiste de l'équipe tchèque a été testé positif. C'est le 3e cas au sein de la délégation de République tchèque. On a aussi appris 2 forfaits. La skateboardeuse néerlandaise Candy Jacobs et la championne chilienne de taekwondo Fernanda Aguirre, forfait à cause du Covid.
Merci Simon Rubin. Et pour suivre les épreuves et remises de médailles, n'oubliez pas votre rendez-vous quotidien sur Europe 1. Dès samedi de 13h à 14h, le Club Tokyo du service des sports d'Europe 1. Et puisqu'on parle des Jeux Olympiques, notez que la ville de Brisbane en Australie accueillera les JO de 2032. Seule en lice, elle a été désignée aujourd'hui par les membres du CIO, Thierry.
Merci beaucoup Sophie Tusson. On vous retrouve bien sûr à 18h30
oui, à tout à l'heure.
Pour l'essentiel de la